Si vous voulez, pour moi, ce qui est très clair et qui a besoin souvent d'être redit, reprécisé, regardé encore et encore jusqu'à ce que ce soit réalisé, c'est qu'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas d'auteur à quoi que ce soit, il n'y a pas de moi. Il y a l'idée d'un moi, une pensée « je », disait Ramana Maharshi, et cette idée est crue. Parce que dans l'enfance, on nous a appris à croire que « moi ». On nous a appris à faire attention, fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Et on a fini par croire qu'il y avait une entité, un auteur, un pilote, aux actes, aux pensées, aux choix. Et en fait, il n'y en a pas. Quand on était petit, on nous a appris à croire au Père Noël. Et un jour, on nous a dit, il n'y a pas de Père Noël. C'est les parents qui mettent les cadeaux sous le sapin. Je sais pas, moi, il a fallu en plus que je vois que c'était bien mes parents qui mettaient les cadeaux sous le sapin, parce que moi, je voulais croire au Père Noël. Eh bien, ça se passe un peu pareil. On nous a appris à croire qu'il y avait un moi. Il n'y en a pas. Mais non seulement il n'y en a pas, mais en plus, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. Ça veut dire qu'aucun moi n'a jamais rien fait. Il n'y a pas d'individu séparé. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas de pilote. Au sein de cet organisme corps mental, tout arrive de soi-même. Et bien sûr, ne croyez surtout pas sur parole, regardez. Le maître mot, ce sera toujours regardez. Est-ce que ce qui apparaît, est-ce que c'est vrai ou pas ce que je dis? Il va falloir non pas y réfléchir, parce que ça ne va pas nous mener bien loin, mais porter le regard là-dessus. Et peut-être la première chose qu'on peut faire, c'est déjà, mais regardez, depuis que je suis assis là, depuis qu'on vous parle, même depuis que vous êtes vous êtes assis, puis vous êtes en train de ça, il y a eu des pensées. Ou même là maintenant, depuis que je parle, il y a eu des pensées. Est-ce que ces pensées sont apparues? Ou est-ce qu'il y a, vous voyez, quelqu'un qui les a pensées? Et puis vous bougez. Il y en a qui bougent un petit peu les mains, il y en a qui clignent des yeux. Il y en a qui bougent les jambes, il y en a qui changent de position sur la chaise. Est-ce que tout cela, vous le décidez, ou est-ce que ça se fait tout seul? Par exemple, madame, vous venez de hocher la tête, on a la tête, elle a bien oui la tête, ça se fait tout seul, ou est-ce que ça se fait tout seul? Vous voyez? Et c'est, bonsoir, et c'est à partir d'un regard déjà porté sur des choses comme ça, aussi simples que cela, qu'on va pouvoir remettre en question cette idée qu'il y a un moi. Parce qu'en fait, on se rend compte que les pensées apparaissent, on se rend compte que les gestes se font, et qu'en réalité, personne n'a rien fait, personne n'a jamais rien fait. Ces choses-là arrivent. Et puis après, on peut approfondir la question du choix, parce que souvent, on croit qu'on choisit. Par exemple, si j'ai bien choisi de venir là ce soir. Regardez de près. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ce soir? On vous en a parlé. Vous avez été attiré par quelque chose. Vous avez le droit de réagir, me dire un peu, me donner des idées, mais pas forcément beaucoup.
Ça peut venir de très loin.
Ça peut venir de très loin. Oui, j'ai lu des choses, j'ai écouté des gens il y a longtemps, ou... Je suis en recherche, tout d'un coup, j'étais scotché par un truc, peu importe. Donnez-moi un exemple. Quelqu'un qui croit qu'il a choisi de venir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui croient qu'ils ont choisi? Question piège. Pardon? Vous croyez que vous avez choisi. Qu'est-ce qui vous a fait venir?
Ça m'a donné envie de venir.
Et l'envie de venir, vous l'avez choisi?
Non, pas l'envie.
Non, pas l'envie. Et vous êtes venu parce que vous aviez envie de venir. Donc, si vous n'avez pas choisi, il n'y aurait pas eu l'envie, vous ne seriez pas venu. C'est QFD. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous remontez à la source, enfin, ce qui vous a fait choisir telle ou telle chose, vous allez toujours tomber sur une envie, ou sur une aversion, ou sur oui, des choses comme ça.
Une hésitation aussi, à un moment donné.
Vous pouvez avoir une hésitation, à un moment donné, oui. Et l'hésitation, elle apparaît. Vous choisissez d'hésiter.
Ah, d'accord.
L'hésitation, elle apparaît. Et qu'est-ce qui fait que finalement vous avez décidé?
Ah, c'est venu spontanément.
Ah, c'est venu tout seul. J'ai pas choisi d'hésiter. À un moment donné, l'hésitation s'est effondrée. Je suis venu. Aucun choix. Ça s'est fait tout seul. C'est comment de voir que ça s'est fait tout seul? Plutôt tranquille ou plutôt inquiétant?
Bah, oui, c'est reposant. Oui.
C'est reposant. Voilà. Et le plus souvent, quand on voit ça, waouh, souvent les gens me disent, mais c'est les grandes vacances. Les grandes vacances à perpétuité. Parce que, oui, c'est reposant. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête pour savoir, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais m'y prendre? C'est fini. J'en sais rien. Aujourd'hui, là, maintenant, je ne sais pas. Ah ben, je ne sais pas. C'est aussi simple que ça. Et quand ça c'est, ça c'est. Et tant que ça ne sait pas, ça ne sait pas. Et quand ça c'est, ben ça fait. Souvent, on ne se rend même pas compte que ça c'est. Seulement après vous... Ça s'est déjà fait. Ah tiens, ah, je ne savais pas quoi faire, là ça s'est fait. Ah, mais c'est déjà fait. Il n'y a aucun processus de décision, de mise en route de l'acte, ça s'est fait tout seul. Et parfois pour des choses importantes.
Ce serait une succession de petites...
De
prises de conscience entre vous.
Pas forcément, oui, il y a des prises de conscience, mais il n'y a même pas forcément besoin de prise de conscience. C'est simplement ce qui arrive. Mais c'est pas forcément des clics. Là. Bah, par exemple, là, je me gratte le front, il n'y a pas un déclic. Ça gratte, ça gratte. Tu vois? C'est pas un déclic. Ça apparaît. Le geste que je fais, il apparaît. Les paroles que je prononce, elles apparaissent. Vous voyez bien comment je parle, que j'ai pas tout prévu d'avance. Oui. Ça apparaît au fur et à mesure. Et le mental est remis à sa juste place. Au lieu de s'en servir comme du maître, d'être soumis plus exactement au mental qui devient le maître de ce que je dois faire et pas faire et comment je dois le faire, etc., avec toutes ces prises de tête sans fin, ça devient le serviteur qui est juste là pour trouver le bon mot. Bon, il sert aussi à d'autres choses comme calculer, enfin, pour tout ce qui est pratique, il va demeurer, bien sûr. Parce que les pensées précède le mental, en fait, dans ce qui est clair pour moi, les pensées précèdent le mental. Et c'est pour ça qu'on peut communiquer par la pensée, par exemple, avec des gens des milliers de kilomètres et qui ne parlent pas la même langue que nous. Ou avec les bébés dans le ventre de leur mère, ça va être beaucoup, de plus en plus, ça, par exemple. Et les pensées, après, ont besoin d'être mises en mots pour pouvoir être partagées quand on ne communique pas par la pensée. Et le mental sert à ça. Par exemple. Je vais distinguer le mental discursif, celui qui raconte des histoires, oui, t'as vu ce qu'il m'a fait, ou là, oh là là, comme je l'aime. C'est pareil, c'est des histoires. Du mental fonctionnel, qui sert à trouver le bon mot, qui sert à calculer, qui sert à prendre le billet d'avion pour venir, etc. Et là, on ne parle en fait que du mental discursif, celui qui raconte des histoires. Toutes ces histoires qui se racontent ne sont que des histoires qui se racontent. C'est-à-dire en réalité des pensées crues, je viens de croire. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on se met à regarder de près, on se rend compte que tout mal-être, du plus petit malaise à la plus grande des souffrances psycho-émotionnelles, est toujours lié à des pensées crues. Pas de pensées crues, pas de mal-être. Et l'une des plus importantes pensées crues, l'une qui vient tenir toutes les autres, c'est la pensée moi. Et c'est la raison pour laquelle, dans la perspective non-duelle, on va regarder cette pensée moi de plus près. Mais est-ce qu'elle tient la route? Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Ce n'est qu'une pensée, une croyance, une pensée crue.
Et ce sentiment qu'on dit, faut pas que j'aille par là, ou faut pas que. Est-ce que ça fait partie de
l'ancienne
histoire crue ou...
Pas forcément. Ça peut être juste un feeling.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a. Ce que je suis quelque part, c'est. Et à un certain moment, ça apparaît. Et là, on voit bien que c'est sans mental, sans histoire. C'est juste... Quand c'est une connaissance directe comme ça, je conseille de l'écouter. Quand c'est « oui, ça me rappelle un tel, il faut que je fasse attention », là, ça devient discursif. Et pourquoi perspective? On parle de perspective non duelle. Parce qu'en fait, il s'agit seulement d'un changement de perspective. Tout se passe comme si, d'une façon générale, on était collé à l'histoire. On est collé à moi, ce que je vis, à mon histoire, à finalement à mes croyances et mes conditionnements. À ce qu'on m'a inculqué. C'est toujours à moi que ça arrive. Vous voyez, toutes ces histoires qu'on peut entendre, qu'on peut même se raconter soi-même. Ça, c'est être collé à l'histoire. La perspective, elle est très réduite. Comme si on avait des œillères. Et on y croit. On croit que réellement on souffre. On croit que réellement c'est vrai ce qu'on raconte. Parfois, même si quelqu'un nous dit « Mais c'est pas vrai, attends, mais arrête de croire ça. » On va pas, on va même pas vouloir écouter. On peut même se fâcher avec lui. « Oui, tu comprends rien. » Vous connaissez ça? Ça, c'est collé à l'histoire. Comme s'il y avait identification. En fait, il y a juste... Ça colle, juste. L'histoire est crue. Les pensées sont crues. Sans recul. Sans regard. Ouais.
Et la mémoire?
Tout à l'heure. D'abord, je finis ce que je dis, sinon j'ai oublié. Et puis, à un moment donné, on voit, ah, mais c'est vrai, c'est une pensée crue. Et si j'y croyais pas? Et si c'était pas vrai ce que je me raconte? Qu'est-ce que j'en sais après tout? Et là, on peut prendre n'importe quelle histoire, on peut se poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Est-ce que je suis prêt à me faire couper un bras au nom de ce que je raconte? Oui, un tel, il m'a fait ça, c'est parce que... Qu'est-ce que j'en sais? S'il m'aimait vraiment, alors il ferait ça. Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que je suis prêt à me faire couper un bras au nom de ma pensée? Généralement pas.
Parce que c'est la pensée ou parce que c'est les émotions?
Les émotions, c'est quoi? Sinon, des pensées crues avec un petit peu de sensation corporelle.
Parfois, on peut avoir des émotions sans avoir forcément pensé.
Ça peut arriver, c'est assez rare. Le plus souvent, les émotions qui montent proviennent de pensées crues qui ne sont pas vues. Tellement engrammées, oui, ça devient automatique.
C'est automatique.
Je vous crois.
Ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Juste ressentez, là tout de suite, l'émotion.
Oui, c'est un sacré bordel pour nous, quoi.
Là, tout de suite, l'émotion que tu ressens maintenant, regarde. Qu'est-ce qui fait que ça s'agite comme ça, là, tout de suite? Quelle est la pensée qui vient qui fait que ça s'agite?
La pensée qui vient, ça, c'est... Pour moi, l'état, l'état dans lequel vous êtes, est un monde qui m'est complètement inconnu, quoi. Je peux théoriquement... saisir, mais absolument pas le être.
Ça, c'est qu'une pensée.
Certainement.
Elle
mais
fausse.
Certainement.
Ça
mais
fait,
comment
ça veut dire
faire pour cette pensée fausse la réalité?
Les espaces où justement il n'y a pas de pensée, où justement l'être-té se révèle, sont comme un écran blanc pour le mental. Ça ne l'intéresse pas, il n'y prête pas attention. Quand on va au cinéma, c'est pas pour regarder l'écran blanc, c'est pour regarder les images qui sont projetées dessus. C'est pareil dans la vie. Et pourquoi on va voir des films? On aime des films qui racontent des histoires, parce que ça fait vivre à l'intérieur. Mais l'écran blanc, ça ne fait pas vivre à l'intérieur, prétendument. C'est qu'on aime les histoires. Ça aime les histoires. Et ça ne s'intéresse pas à l'écran blanc. Pourtant, sans écran blanc, il n'y aurait pas d'image. On ne pourrait pas les voir, les images. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je suis bien certain que vous êtes déjà arrivé de sentir des moments de calme, tranquille, sans raison, de paix, douce. Jamais, pas une seconde en même temps. Et parfois, sans aucune raison. Parfois, parce que je fais quelque chose qui fait que ça appelle ça, qui réveille ça. Ça peut être aussi parfois simplement, comme ça, tout d'un coup, on est saisi par un instant de paix. Bon, peu importe. Dans quelles circonstances ça vous arrive?
C'est plutôt quand je suis dans un environnement qui appelle à un certain calme. Pour moi, c'est ce qui est la nature.
Par exemple, ça je suis dans la nature et tout d'un coup, ça s'apaise, le mental se calme. Oui. Et qu'est-ce qui se révèle à ce moment?
J'appellerais ça une tranquillité.
Et si, en réalité, le fond était la tranquillité, et que tout le reste, toute cette agitation, apparaissait sur fond de tranquillité. Que ce n'était pas une alternance tranquillité-fond, tranquillité-agitation, mais tranquillité de fond, qui se révèle lorsque l'agitation se dépose, et qui est masquée lorsqu'il y a agitation. Vous savez, comme quand on remue l'eau d'une vase, l'eau d'une mare, la vase monte, l'eau est trouble, c'est agité. Et puis, on est dans la nature, tout se dépose, la vase se dépose, l'eau s'éclaircit. Mais l'eau a toujours été l'eau.
Oui, mais dans ce cas-là, cette tranquillité, c'est là où moi j'ai vraiment du mal à faire par l'injonction. Comment on peut l'appliquer dans notre vie quotidienne?
L'appliquer ou la trouver?
Comment agir? Comment, ça me paraît être...
Qui pourrait bien faire ça? Vous voyez bien, vous n'y arrivez pas.
Non.
Et si en fait, il n'y avait personne qui pouvait le faire?
Bon, alors...
Prenez un instant pour respirer ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Personne n'a jamais pu. En tout cas, j'en connais pas. C'est comment de prendre cette mesure-là? Ah, mais en fait, je ne peux pas créer le calme. Ah, définitivement, quoi. Je peux le prendre dans la nature, puis déjà bien dans le monde, ça s'agite de nouveau. Je ne peux pas créer un calme définitif. Je ne peux pas. C'est une réalité, quoi. Combien d'années vous essayez?
Alors.
On rentre pas dans le détail. Mais oui, ce
non,
que je veux dire.
Pas,
vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Ça, je ne peux pas. Ça ne peut pas. Respirez ça. Ah ben oui, c'est vrai. Tiens, en fait, je peux pas créer le calme sur commande comme ça et vivre tout le temps calmement. Je peux pas. C'est comment?
Et comment quoi?
De se dire ça. Je peux pas. Je peux arrêter d'essayer de créer le calme. J'y arriverai pas.
C'est là où je ne suis plus. Je dois être trop cartésienne.
Non, non. En fait, dans qui, tout à l'heure, il y avait deux options. Ça fait des années que les uns et les autres, on cherche le bonheur. Un bonheur, on peut appeler ça comme on veut, on peut appeler le calme, l'unité, la sérénité, peu importe comment on l'appelle. Quelque part, on cherche un bonheur constant. C'est en clair, quelque chose qui dure. Alors au début, on croit que quand on sera grand, on croit que quand on aura tel métier, on croit que quand on sera marié, qu'on aura des enfants, on croit que, on sait bien qu'à nos âges, généralement, quand on est petit jeune...
Oh, merci.
Mais Mais ça dure. À nos âges, on sait que, ok, ça peut apporter un certain bonheur, une certaine joie, une certaine paix, mais c'est pas ça. Ici, c'était la mauvaise route. Ici, ce qu'on cherchait était vain. Ici, on cherchait du mauvais côté. Alors après, on va faire une thérapie, et puis après, on va s'orienter du côté spirituel, et on va chercher dans le spirituel la paix et le bonheur qu'on ne trouve pas dans le monde. Et si on se trompait encore? Et si c'était beaucoup plus simple que ça? Et s'il ne s'agissait pas d'une recherche? Et s'il s'agissait au contraire d'arrêter la recherche? Plutôt d'arrêter, non pas de faire « j'arrête la recherche », mais de voir qu'elle est vaine et donc de la laisser s'effondrer. Vous êtes le bonheur. Cherchez l'amour et vain, vous êtes l'amour. Cherchez à aimer plus les uns les autres, ça n'a aucun sens, vous êtes l'amour. Vous ne pouvez pas aimer plus que ce que vous êtes l'amour. Encore faut-il que ce soit réalisé. La seule différence, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, oh mince, mais c'est tout con, c'est ça, c'est ce que je suis. Il y a plein de choses qui s'effondrent. Parce que vous voyez bien que la recherche mène nulle part. Vous voyez bien que tout ce que vous avez fait pour arriver là où vous vouliez arriver, finalement, c'est toujours pas là ce que vous cherchiez. Alors peut-être que c'est parce que vous cherchez du mauvais côté. C'est la même chose. Peut-être que le regard se tourne du mauvais côté. Le regard se tourne, enfin, il y a toujours tendance à vouloir acquérir quelque chose pour acquérir le bonheur, enfin, acquérir la paix, acquérir, vous voyez ce que je veux dire, pour enfin être heureux, acquérir une compréhension, acquérir des expériences mystiques, ou je ne sais pas quoi, pour savoir, pour enfin être heureux, pour aimer vraiment, pour. Peu importe ce qu'on met avant l'heure. Non? Non? Quoi alors? Qu'est-ce que vous cherchez?
Je cherche pas, j'essaie de... comme vous dites, on est accroché à ce moi, cette identité, on s'identifie à tout. On s'accroche à cet ego. Et j'ai du mal à imaginer qu'on arrive à ne plus s'identifier, en fait.
Mais vous ne pouvez pas créer ça. À un moment donné, l'identification tombe.
C'est à vous de le savoir.
C'est-à-dire que ce qui change, c'est que la croyance, c'est la focalisation. Vous croyez que vous êtes cet organisme. Vous croyez que vous êtes doué d'un moi qui pense, qui agit, qui fait des choix. c'est la seule chose qui s'effondre, c'est cette croyance. Alors qu'il est réalisé qu'en fait, vous n'avez jamais été ça.
Comment ça s'effondre ?
C'est la magie du regard. Porté sur les croyances. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est réel ? Ça commence par je crois en une histoire, n'importe laquelle, c'est collé. Et je regarde. Bah, par exemple, un jour vous avez été blessé, tout le monde. Prenez une fois que vous avez été blessé. Ou bien la fois que vous avez été le plus blessé de toute votre vie, ce qui vient à l'esprit, n'importe. Qu'est-ce que vous êtes dit ce jour-là ? Il s'est passé quelque chose, vous avez été blessé. Qu'est-ce que vous êtes dit ? Deux exemples. Il n'aurait pas dû. Quel salaud. Comment il peut faire ça ?
La culpabilité.
Jamais.
Plus jamais.
C'est insupportable.
Qu'est-ce qui est insupportable ? Comment a-t-il pu faire ça ? On n'a pas le droit. Il ne faut pas. C'est mal. Oui, il y a des idées comme ça qui viennent. Vous comprenez ce que je dis ? Maintenant, imaginez. Le même événement, mais aucune pensée. Est-ce que vous êtes encore blessé ? L'événement, quelqu'un me fait un croche-pied, il me fait un croche-pied, c'est un événement. Je tombe par terre, je tombe par terre. Vous voyez ? C'est un événement. Quelqu'un me dit salaud, c'est un événement. Vous voyez ce que je veux dire ? L'événement arrive, mais aucune pensée. Est-ce que je suis blessé ? C'est clair pour tout le monde que non ? Maintenant, imaginez, même événement, même pensée, mais les pensées ne sont pas crues. Elles apparaissent, elles ne sont pas crues. Ça leur fait un coup, ça passe, pas blessé. Et pourtant, je peux encore aujourd'hui être blessé de choses qui sont passées il y a 20 ans. À cause de pensées crues. Ce ne sont que les pensées crues qui créent ce collage et qui créent ma souffrance. Et ça raconte une histoire. Il n'aurait pas dû, ça ne se fait pas, etc. Des pensées qui racontent une histoire. Et l'une de ces pensées crues, c'est la pensée « moi ». L'idée qu'il y a un auteur, qu'il y a un pilote dans cet organisme. Et pourquoi voir cette pensée comme ce qu'elle est, une simple pensée, est si important ? Parce que lorsque je dis « je suis triste », et que je crois en la pensée moi, c'est moi qui suis triste. C'est deux pensées juxtaposées. Je suis en colère, moi, colère. Je suis blessé, moi, blessé. À chaque fois, c'est deux pensées qui coexistent et qui viennent amplifier le phénomène. Lorsque l'idée d'un moi s'effondre, il y a blessure, tristesse, colère, mais personne qui est blessé, personne qui est triste, personne qui est en colère, il n'y a pas de moi. C'est un mouvement qui arrive au sein de cet organisme et il n'y a plus cette identification, cette colle qui vient créer de la souffrance à long terme.
Si, il y a des émotions.
Il y a des émotions, bien sûr.
Ah,
mais bien sûr. Tristesse, colère, blessure peuvent apparaître, peur, n'importe quoi peut apparaître, amour, tout peut apparaître. Mais il n'y a pas l'idée, c'est à moi que ça arrive. Ni c'est à cause de moi, ni c'est pour moi, ni je le mérite, ni je le mérite pas, ni tout ça s'effondre.
Si tout ça s'effondre, ça veut dire qu'il ne reste que ressenti et émotion.
L'être-té, vivante, vibrante, spécifique, qui vit en cet organisme. et qui se teint d'une expression propre. C'est-à-dire que ce que vit cet organisme n'est pas ce que vit cet autre organisme là-bas. C'est teinté. L'être la même, l'être-té est teinté par l'organisme, mais c'est l'être-té qui est ce fond de tranquillité, de paix, de joie, d'amour, de bonheur, sans cause. Sans cause. C'est-à-dire que c'est ce qui peut faire dire je suis l'amour, je suis la paix, je suis le bonheur, sans cause. Qu'il y ait quelqu'un aimé ou pas, ça ne change rien dans quelque chose. Et par contre, dès que quelque chose apparaît dans le champ du regard, ça ne peut pas ne pas être aimé, je suis l'amour. Comment ça pourrait ne pas aimer? Et alors, si de la tristesse apparaît, elle ne peut pas ne pas être aimée. Si de la colère apparaît, elle ne peut pas ne pas être aimée. Si un ras-le-bol apparaît, elle ne peut pas ne pas être aimée. Et alors, la tristesse est douce, la colère est forte, le ras-le-bol devient amusant, la peur aussi. C'est beaucoup plus cool. C'est-à-dire que si je continue ma petite explication collée, ça croit aux pensées, à l'histoire. Et puis à un moment donné, ça voit, mais attends, c'est juste des pensées, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Et alors ça voit, et il y a quelque chose qui voit, ah mince, c'est une histoire, comme pour la blessure tout à l'heure. Quand je vous ai demandé, retrouvez un moment où vous avez été blessé, regardez les pensées, s'il n'y a pas de pensée, comment c'est? Au moment où vous êtes là, s'il n'y a pas de pensée, comment c'est? Qu'est-ce qui regarde? Qu'est-ce que c'est à cet instant précis qui regarde cet événement passé? Et est-ce que cela qui regarde est agité ou calme? Et ce qu'on appelle l'être-té, le je suis, c'est simplement ça. Ce regard tranquille. Un autre moyen. Essayez d'arrêter d'être. Là, maintenant, tout de suite. Vous y arrivez? Vous y arrivez?
Je ne sais pas.
Essayez d'arrêter d'être. Et touchez cela qui ne peut pas arrêter d'être. Et regardez cela qui ne peut pas arrêter d'être. Et ça, c'est le coller, regarder ce qui se passe, retournement du regard. Le regard se regarde lui-même. Essayez d'arrêter d'être. Regardez cela qui ne peut pas arrêter d'être. C'est comment? Est-ce que c'est pas déjà calme là? Est-ce que c'est pas déjà paisible? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a l'idée d'un moi, l'idée d'une recherche, d'un but à atteindre? Ou est-ce que ça se suffit déjà à lui-même? Combien de temps faut-il pour le rencontrer? Est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce que c'est juste là? Est-ce que c'est parti un jour, que j'en ai conscience ou non? Que j'ai conscience ou non de sa présence? Ou est-ce que ça a toujours été là, que j'en ai conscience ou non? Est-ce que c'est le même quand je suis malade ou en bonne santé? Physique ou psychique? La maladie? Ou est-ce que, ou pas? Est-ce que c'est toujours pareil, d'année en année, de jour en jour? Ou est-ce que cette être-té, elle varie? Est-ce qu'elle a vieilli? Parce que vous voyez bien que si cette être-té, c'est toujours la même, que j'aille bien ou mal, que je sois en bonne santé ou malade, que je sois jeune ou plus âgé, et qu'elle est tout le temps là en fond, que j'en ai conscience ou non, Qu'est-ce que je suis plus? Les émotions qui vont et viennent, les événements qui vont et viennent, le corps qui vieillit et qui est malade ou en bonne santé, etc. Ou est-ce que je suis plutôt cette être-té de fond qui est tout le temps la même? Et combien de temps faut-il pour la sentir, pour être avec? Est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce que c'est donné à tout le monde? C'est Ramana Maharshi qui disait, c'est tellement simple. Quand l'éveil s'est produit, c'est ce que j'ai dit pendant 15 jours, j'ai pas arrêté de me halter, mais c'est incroyable, mais comment j'ai fait pour ne pas le voir plus tôt? C'est tellement évident, c'est tellement simple, c'est tellement banal et ordinaire, ça se tire une balle dans la tête de simplicité. Parce qu'on est conditionné. C'est le jeu de la vie. C'est un conditionnement. Mais regardez les enfants qui se posent la question. Un jeune enfant ne se pose pas ce genre de questions. Il est juste là dans le monde, il joue. Ou bien il découvre, il explore. Un être-té en mouvement à travers cet organisme spécifique. Puis on nous apprend, c'est sérieux la vie, attention! Alors ça se contracte. Et regarde ce que t'as fait! Les enfants savent bien, mais je ne l'ai pas fait exprès. Ils savent. Mais on les oblige à oublier. Fais attention! Comment je peux faire attention? Il n'y a pas de moi pour faire attention. Ils ne savent pas ça. Alors ils croient, et ça se contracte. Alors bien sûr, ça perd le bonheur que l'on est. Puisque c'est tout le temps en contraction pour faire attention, par exemple, pour réussir dans la vie, pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas se tromper, pour etc. Pour. Et il n'y a plus de détente. Et alors après, ça se met à chercher le bonheur. Mais comment nous a appris qu'il fallait agir pour? Au lieu de simplement se détendre et de trouver « Oh, mais en fait, je suis le bonheur. Ah, moi, les grandes vacances. » Ben non. Ça se contracte un peu plus. Il faut que je trouve comment. Ça n'a juste pas de sens. Qu'est-ce qui est compris?
C'est compris.
Qu'est-ce qui reste? Faites attention, ça peut vous saisir à tout moment. Nul ne connaît ni l'heure ni l'endroit. Et tout d'un coup, c'est un soulagement. Oh, mais c'est pas la peine que je fasse tout ça! Et la vie continue à fonctionner. Hein. J'ai quand même pris mon billet d'avion pour venir. Et en plus, je suis monté dans l'avion. Ça fonctionne, tout a toujours fonctionné de soi-même. Parce que ça, c'est souvent la grande peur des gens. Mais comment je vais faire après? Ben, c'est simple, ça va continuer. Comme avant. Simplement plus cool. Les choses se passent comme on... Non, on n'espère plus qu'elles se passent d'une manière ou d'une autre, mais les choses se passent, c'est super. Elles ne se passent pas, c'est super. C'est bien. Rit tout en souffle. S'arrête.
bizarre.
Alors coller, vision qui s'est collée, retournement du regard qui regarde l'étroité elle-même. Il y a encore une petite étape après. Essayez d'arrêter d'être. Regardez cela. Cela qui ne peut pas ne pas être. Et constatez-le. Cela qui ne peut pas ne pas être est connu. L'être-té est connu. Qu'est-ce qui la connaît? Et là, je ne sais pas si vous sentez, mais le mental est essoufflé. Il y a une espèce de indubitabilité, c'est-à-dire que si vous touchez cela, c'est plus difficile à sentir. Mais si vous touchez cela, vous sentez, il y a il y a quelque chose qui le connaît. Ah oui, il y a quelque chose qui connaît ce je suis, cet être-té que je suis. Mais je ne peux pas m'en saisir. Mais oui, si on pouvait s'en saisir, ça ferait partie du domaine du connu. Or, cela qui connaît tout ce qui peut être connu ne peut pas être connu lui-même. C'est inconnaissable, innommable, insaisissable. Et cependant indubitable.
Ce n'est pas le domaine de l'expérience.
Non, et ça se traduit par les expériences. Plus loin, on ne peut pas aller. Et surtout, ce que je tiens à souligner, parce que ça, c'est vraiment... Il y a plusieurs étapes, d'accord. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que ce que vous êtes, c'est ce que vous cherchez. Et c'est ce que vous êtes. Donc, il n'y a pas de chemin à parcourir. Il y a simplement à regarder jusqu'à... On pourrait dire écouter, on pourrait dire prendre conscience, peu importe le mot. Le mot qui vient ici, c'est regarder. À regarder jusqu'à ce que ce soit vu. Ah, mais c'est ça! Waouh! C'est tout simplement ça. Cet être-té que je suis. Tout d'un coup, un jour, c'est réalisé. À force, plus le regard se tourne de ce côté-là, cela qui ne peut pas ne pas être, par exemple, et à un moment donné, paf! C'est su. Ah, ben oui, c'est ça que je suis, c'est évident. Ou. Le regard se tourne vers cette idée d'un moi, mais qu'est-ce qui me fait croire qu'il y a un moi? Il est où ce moi? De quoi est-il fait ce moi? Et à un moment donné, paf, ça s'effondre. La croyance en un moi s'effondre. Et automatiquement, nous sommes rendus à ce que nous sommes, à cet être-té. C'est un effet secondaire. Et n'allez pas croire que c'est compliqué, n'allez pas croire qu'il faut 20 vies et méditer pendant je ne sais pas combien d'années et tout. C'est faux. C'est ce que vous êtes. Ça ne se gagne pas. Ça ne se mérite pas. C'est juste une question de regard. Simplement, depuis qu'on est petit, on nous a appris à regarder dans une direction. Et là, c'est juste regarder dans l'autre sens. À un moment donné, ça va être vu. Avec une petite difficulté. C'est comme si depuis l'enfance, on vous maintenait... Les yeux fermés. Ferme les yeux, ferme les yeux. On vous a appris quand vous étiez petit. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Puis vous vivez dans le monde les yeux fermés. Et là, tout d'un coup, on vous dit, ouvre les yeux. Oh, vous êtes ébloui, vous n'arrivez pas à voir. Parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans que vous avez les yeux fermés. Donc la moindre lumière vous éblouit, vous ne voyez rien. Et au début, ça peut être comme ça. On ne voit pas grand-chose, c'est juste blanc. Ça peut me paraître complètement inintéressant. Je vois rien, c'est pas intéressant, c'est juste blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, continue à ouvrir les yeux doucement. Peut-être au début juste une demi-seconde. Et un petit petit à petit, ça va s'acclimater. Et alors vous allez voir à la lumière du jour. Et c'est à ce moment-là que l'être-té dans toute sa splendeur se révèle. Poétique ce soir.
Il y a plus besoin.
Il y a une résistance dans la personne qu'on croit. Il y a une résistance qui ne veut pas. Il y a toujours une part de nous qui ne veut pas, en fait, franchir ce cap.
Qui, nous?
En tout cas, il y a une résistance.
Il y a une résistance. Est-ce qu'elle m'appartient? Parce que si je crois qu'elle m'appartient, alors je crois qu'elle est vitale pour moi et qu'elle a un sens, que je dois donc la maintenir parce que sinon c'est dangereux. Mais si c'est juste une résistance qui appartient et qui ne m'appartient pas, qui apparaît mais qui ne m'appartient pas, tu peux la regarder avec beaucoup plus de tranquillité.
Oui, c'est parce qu'on croit que c'est nous où on y tient finalement.
Qui, nous? Il est où, ce moi? Et on croit que c'est moi qui l'ai mise en place pour... Et non, c'est juste une résistance qui apparaît. Alors c'est beaucoup plus facile à regarder. Ah tiens, il y a une résistance qui apparaît. Et comment elle se manifeste, cette résistance? Déjà dans le corps, puis dans la vie. Qu'est-ce que ça crée? Comment c'est? Goûter la résistance.
C'est de l'attention.
Oui.
Respiration, peut-être, qui se
vient. Ah, peut-être, peut-être, c'est toujours une idée, peut-être. À moins que ce soit réellement un vécu direct pour vous. Alors, ouais. Oui, la respiration qui n'est pas si ample, par exemple, tension, oui. Et alors, si vous restez juste avec ça, ah tiens, c'est tendu dans le corps, ah tiens, ça ne respire pas très profondément, sans rien essayer de changer. Qu'est-ce qui se passe?
Ça se détend.
Sans rien faire. Juste le regard qui se porte dessus. Et que devient l'idée d'une résistance? Ça s'évapore. Quelle était sa réalité? Seulement celle que je lui accordais. Seulement celle qui lui était accordée par automatisme, pour dire les choses correctement. Oui, et c'est simplement ça, le regard qui se porte, ça colle, ça résiste. Je résiste. On part de là. Je résiste. Je dis, mais est-ce qu'il y a un moi? Je ne sais pas si c'est moi qui résiste. En fait, ça résiste. Déjà, c'est déjà moins collé. Et comment ça se manifeste, la résistance? Haute, tension, respiration plus courte. Ah, comment c'est en fait de juste être avec ça, juste goûter? L'histoire s'effondre. C'est toujours comme ça.
Des fois c'est plus ou moins long.
Oui, des fois on n'est pas accompagné. Aussi. Oui. C'est-à-dire, il y a une partie qui lie à ça. Et oui. Et parfois c'est plus long aussi parce qu'il y a des pensées qui ont du mal à être vues simplement. Parfois, c'est souvent, c'est à. Il y a des couches sur des couches sur des couches. Et alors, c'est plus compliqué. La mémoire, me demandait-on. Quelle était la question à propos de la mémoire?
Alors,
se souvient plus.
Que les pensées sont imprimées dans la mémoire. La mémoire, ce sont des multiples pensées.
La mémoire n'emmagasine pas seulement les pensées, elle emmagasine plein de choses. Il y a une mémoire corporelle, il y a une mémoire des faits, il y a une mémoire... Oui. Et quelle est la question?
La question, c'est... À partir du moment où on est conditionné, la mémoire, elle est dedans, quoi. Elle est dans les conditions. On est conditionné pour faire des gestes, pour parler de telle manière, pour notre... La mémoire,
j'entends ce que vous dites.
Elle a quoi comme rôle, la mémoire? Elle joue quoi comme rôle?
Oh, ça me fait me souvenir que ça, c'est une bouteille d'eau. Ça me fait souvenir que. Je sais pas. Plein de choses, comment conduire une voiture, ou n'importe. C'est fonctionnel, la mémoire, quand même aussi. Ceci dit, il y a une bonne partie qui s'effondre. Hein.
Une
bonne partie, dans mon cas, et dans le cas d'autres personnes, qui s'effondre. Ouais. Déjà la mémoire de tout ce qui peut être émotionnel, celle-là, mais alors ça laisse pas de traces. il se passe des choses, mais il faut vraiment faire un effort pour réussir à se souvenir de ce qui s'est passé. Et on n'y arrive quand même pas. Parfois des faits, mais surtout tout ce qui est émotionnel. Parce que c'est vécu pleinement au moment où c'est vécu, et puis ça laisse pas de traces, parce que c'est vécu pleinement, c'est vu comme étant lié à des pensées, c'est vu comme étant sans sens, ou comme ou même si la question ne se pose pas, c'est simplement bah il y a une émotion qui apparaît, et alors quoi, hein. Ça n'en fait pas une histoire. Donc ça ne demeure pas dans la mémoire.
La trame du tissu ne se tisse plus.
Des histoires, oui. Les histoires. Il y en a qui se répètent en boucle, hein. J'aime Marion. Toute la journée, elle se répète en boucle. Et celle-là, elle est amusante, alors hein, continue à se jouer. Mais c'est une histoire. C'est sûr que c'est une histoire. Quand on en parle ensemble, c'est marrant. Parce qu'on sait tous les deux que c'est une histoire qui se raconte. Donc à la fois, il y a toutes les émotions, il y a tout ce qui est là, on s'aime et tout, et à la fois ça rigole, et à la fois c'est complètement libre, et à la fois on n'y croit pas, et à la fois on y croit, et c'est les deux à la fois. C'est tout à la fois. C'est marrant.
C'est un théâtre. C'est un théâtre d'ombre.
De lumière plutôt. Et c'est libre.
Est-ce que l'extinction de cette croyance, est-ce qu'elle est déterminée? Ou est-ce qu'elle est même prédéterminée?
Ça dépend de quel point de vue on se place. Tout ça est affaire de perspective. D'un point de vue existentiel, on ne peut que dire que oui et non, parce que ça va dépendre du regard que vous allez tourner vers la chose, et que voilà, patati patata. D'un point de vue existentiel à peine plus élevé, on va dire, bien sûr, puisque de toute façon, tout ce qui arrive a déjà eu lieu et ne cesse de se répéter, parce qu'en réalité le temps et l'espace ne sont pas, ils existent apparemment mais ils ne sont pas, donc tout a déjà eu lieu et tout ne fait que se reproduire en permanence. C'est comme si vous aviez une énorme bobine contenant tous les films de la planète et de tous les univers, et toutes les images sont projetées en même temps tout le temps. Quelque chose comme ça. Et puis, d'un point de vue un peu plus élevé, mais il n'y a rien là. Qu'est-ce que tu veux bien qu'il soit déterminé? Tout ça, c'est juste un rêve. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Tout dépend du point de vue duquel on va se placer pour répondre à la question. En réalité, ça n'a pas d'importance. Ce n'est qu'un jeu. Si vous voulez, c'est la vie, c'est un rêve, un seul et même rêve. Ce qui est rêve, les univers et tout ce qui s'y passe. Éveillé, rêve éveillé évidemment, parce que lui il ne dort pas. D'accord ? Quand vous rêvez la nuit, le monde du rêve apparaît d'un coup. Il paraît réel. Et quand vous courez la nuit dans un jardin, vous avez vraiment l'impression de courir dans un jardin. Et pourtant, il n'y a pas de jardin. Et vous ne courez pas. Vous êtes en train de dormir dans le lit. Et la nuit, dans le rêve, vous pouvez rêver de 50 personnes. Et parfois, vous apparaissez dans le rêve, parfois, vous n'y apparaissez même pas. Et au réveil, le monde du rêve s'effondre d'un coup. Tout ce qui paraissait tellement réel pendant le rêve disparaît d'un coup, il ne reste rien. C'est pareil. Sauf qu'en plus, c'est hors temps, hors espace. Parce que le monde du rêve, il y a un espace. Mais en fait, il n'y en a pas. Il se passe un certain temps dans le rêve. Mais en fait, c'est pas le bon. Tu vois ? C'est pas le même que la réalité. Parfois, on peut rêver d'un truc qui dure des semaines, des mois, des années, et en fait, ben, c'est le temps d'un rêve. Quelques minutes, parfois quelques secondes. Donc, c'est pas un temps réel, c'est pas un espace réel. C'est construit, c'est imaginaire. Ça, c'est pareil.
Juste ouvrir les yeux.
Ouais. même plus des yeux physiques. Oui, c'est une question, oui, exact. À un moment donné, c'est pas ouvrir les yeux, à un moment donné, c'est vu. À un moment donné, mince, c'est rien là. Ça, c'est réalisé. C'est vu, puis réalisé. Pour moi, je dis souvent, il y a deux éveils. Marion parlait de strates. Depuis hier, on parle de strates. Et je trouve que c'est un meilleur terme. Je vais dire deux éveils pour aujourd'hui. Le premier, c'est réaliser qu'il n'y a pas de moi, réaliser qu'il n'y a pas de pilote, d'auteur aux pensées, aux actes, aux choix, que tout arrive de soi-même. Et déjà là, c'est les grandes vacances. Et le deuxième, c'est réaliser qu'il n'y a rien là. Le premier, c'est la réidentification, les retrouvailles avec l'être-té que nous sommes. Le second, c'est les épousailles avec ce qui est. Ce qui est que je suis. Réaliser qu'il n'y a pas de moi. Réaliser qu'il n'y a pas de moi. Que tout est un rêve.
Si j'oublie de m'occuper à la porte de la vitrine, je pense que je vais faire maintenant.
Oui, mais personne ne l'a oublié. Ça a été oublié. Il n'y a pas un quelqu'un qui l'oublie. Bien sûr, ça va faire mal, ça va faire boum. Mais c'est pas parce que le corps a mal que ça va être souffrant. Pour que ça devienne souffrant, quand le corps a mal, il faut qu'il y ait une histoire qui se raconte. Ah, oh, mais quel imbécile! Mais enfin, comment je peux faire ça? Mais enfin, franchement, fais attention! Par exemple, c'est une histoire. S'il n'y a pas ses pensées, c'est boum, boum, oh! Et parfois, ça va même se mettre à rire. Le corps a mal, il n'y a pas de souffrance. C'est pas la même chose. La douleur est physique. Je définis la douleur comme spécifiquement physique et uniquement physique. Je rentre dans une fenêtre, oui, si c'est né en premier, le nez il aura mal au nez, forcément, quoi. C'est la nature de l'expérience. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une souffrance psycho-émotionnelle. Ah, la souffrance psycho-émotionnelle, il faut qu'il y ait une histoire qui se raconte. Ah, mais c'est toujours à moi que ça arrive, mais vraiment, comment je peux être aussi bête? Toute cette histoire-là, ça va me créer de la souffrance. Mais sinon, c'est juste drôle, vous regardez ça dans un film, c'est drôle, tout le monde rigole. Quand ça m'arrive à moi, ça rigole pas, pourquoi? Parce que je vous raconte une histoire.
Ça peut même réveiller une émotion spontanée de pleurer. Il n'y a pas forcément de pensée, quoi.
Bah, si c'est la douleur qui fait pleurer parce que ça fait mal, il n'y a pas de pensée. Si c'est une émotion, il y a des pensées. Même si les pensées ne sont pas vues. Même si les pensées ne sont pas vues.
Elles sont bien cachées, alors.
C'est automatique. C'est pour ça, d'où l'intérêt de poser le regard sur les sensations pures ressenties. Mais revenez à quand vous avez été blessé un jour, par exemple. Regardez ce qui se passe dans le corps. C'est quoi la sensation quand je suis blessé, émotionnellement blessé? La sensation corporelle, elle est où? Est-ce qu'elle est forte? Elle est forte?
Oui.
Elle est forte? Qui m'a dit oui? Levez la main. Et où est-ce qu'elle se situe, la sensation physique, quand je suis blessé psycho-émotionnellement?
Ça peut être dans la gorge, par exemple.
dans la gorge, par exemple, elle est vraiment forte. Reste avec la sensation, juste la sensation dans la gorge. Oublie la blessure, reste avec la sensation. Pareil, restez avec la sensation dans la poitrine. Oubliez le mot blessure, oubliez l'événement, juste la sensation. La sensation elle-même, elle est vraiment insupportable ?
Non, ça devient juste physique, quoi.
C'est juste physique. Oui, c'est bien ça dont je parle, la sensation physique. Je ne parle pas de tout ce qui est associé. C'est très fort quand c'est associé aux pensées, quand ça devient une émotion. Quand c'est juste la sensation physique, il n'y a rien de dramatique, ça fait moins mal qu'une piqûre de moustique.
Mais l'habitude est là de hop, recoller l'histoire.
Exact. Et c'est ce que je dis, décoller.
C'est un travail, en fait, ça ne se fait pas tout seul.
On pourrait dire qu'il y a une sorte de travail de mise en route du processus. En fait, pour moi, c'est plus des retrouvailles avec la nature naturante de l'homme. Les enfants font ça naturellement. On nous a appris à arrêter à le faire. C'est pas intéressant, tes histoires. Fais tes devoirs. Tu vois ? C'est quelque chose comme ça. Regardez les enfants, les jeunes enfants, quand ils se promènent. Ils s'arrêtent tous les 10 mètres. Oh, regarde, t'as vu ? Ils peuvent rester 10 minutes là, à regarder de près les trucs à explorer. Et nous, combien de temps on prend à regarder ce qui se passe en nous ? Juste la sensation physique. Pas beaucoup.
Oui, on veut juste que ça s'arrête.
Ouais, voilà. Et ça s'appelle rajouter une couche. Hein ? Je suis blessé, je vis quelque chose mal, il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'arrête ? Il faut que j'aille voir un thérapeute qui va faire... On rajoute des couches. Ouais. Et pourquoi pas simplement travailler ce qui se passe ? Et si je suis blessé avec la blessure, si jamais il y a une couche par-dessus, je veux que ça s'arrête, être avec, je veux que ça s'arrête. Oubliez la blessure. Toujours la partie, la couche la supérieure. Oui ?
Alors, tout à l'heure, on parlait du vrai rêve, hein, d'accord ? Donc,
du vrai rêve ?
Nos rêves de la nuit.
Oui, d'accord.
Okay.
Moi, il n'y a pas de vrai rêve et de faux rêve, moi, tout est faux, alors. Il faut mieux préciser. Le rêve la nuit, d'accord. Le vrai.
Et donc, ça en souffrance, le corps.
Pardon, et donc
la souffrance, oui. La douleur et la souffrance.
Oui.
Il peut y avoir des rêves la nuit. On a pas mal, mais on a peur. Vous voyez ? On a peur de tomber dans un trou.
Oui. On est poursuivi par un méchant avec un grand couteau, etc. Oui.
Et alors, comme on fait parallèle de le rêve de la nuit et de. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le parallèle, comme c'est notre vie est un rêve, donc.
La peur est aussi fantomatique dans le rêve que dans dans la prétendue réalité.
Voilà.
La peur est fantôme, bien sûr.
Ça m'aide, moi.
La peur est construite. Voilà. Les peurs que vous ressentez quand vous êtes prétendument réveillé sont tout à fait fantomatiques, liées à des pensées. Mais c'est évident. Oui. Déjà, enlever toute idée de futur, est-ce qu'il y aura de la peur ? Ben non. Donc déjà, il faut qu'il y ait une idée de futur. La première, c'est celle-là. Et celle-là, elle est tout le temps là quand il y a de la peur.
Donc ça aide à comprendre la réalité.
Ça aide à vous.
À saisir le sens de la douleur et de la souffrance que vous.
C'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi qui étais psy avant, je peux vous dire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un sens.
Ouais.
C'est juste ce qui arrive. Mais chercher un sens arrive aussi, pourquoi pas ? C'est juste pas la peine. Mais si ça arrive, pourquoi pas ? On peut chercher un sens. On peut s'amuser à chercher un sens. Mais alors faites-en un jeu. Et sachez que ce n'est qu'un jeu. Et de toute façon, ça n'a pas de sens. Sachons-le. C'est juste ce qui arrive. C'est la recherche de sens quand vous allez bien. Vous vous préoccupez du sens que ça a ? La recherche de sens, c'est seulement quand ça va pas. C'est bizarre, hein ? Tout d'un coup, il faut que ça prenne sens. Et quand ça va bien, on n'a pas besoin que ça prenne sens. Ça va bien. C'est pas la peine. C'est pareil. Ça va bien ou mal, c'est pareil. Ce que vous êtes, ceux-là qui constatent tout ce qui se passe, ceux-là que vous ne pouvez pas ne pas être, c'est être-té. Ce que vous êtes n'est pas affecté par le fait que l'organisme aille bien ou mal. N'est pas atteint, n'est pas détruit, ne perd rien de ce qu'il est. Mais regardez, revenez à cela que vous êtes. Essayez d'arrêter d'être. Avec tout ce que vous avez vécu dans votre vie, est-ce que c'est atteint d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que c'est encore entier? C'est toujours le même, toujours entier. Ce que je suis ne peut pas être atteint par ce qui se passe. Mon Dieu, quelle grâce! Il peut se passer n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce que je suis ne peut pas être atteint par ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Et quelle liberté. Parce que souvent on veut éliminer ce qu'on appelle le mal ou la douleur, la souffrance, etc. C'est pas la peine. En plus, on n'y arrivera jamais. Dans le monde duel, hein, il y a autant de jours que de nuits, d'hommes que de femmes, ou à peu près, etc., etc. C'est pas opposé, c'est complémentaire. Et il y a autant de tristesse que de joie, d'un point de vue existentiel. C'est complémentaire. Vous pouvez pas éliminer la moitié de tout juste pour être bien. Ça n'a pas de sens. Que deviendrait l'unité sans la moitié d'elle-même? Former un couple à vous tout seul, c'est pas possible. La liberté, elle n'est pas dans la cessation de tout ce qu'on estime être négatif, elle est dans la vision que rien n'est négatif, dans la réalisation que rien n'est négatif, et qu'on ne peut pas être atteint par ce qui se passe, que c'est juste le mouvement de la vie. Et à partir du moment où ça cesse de refuser ce qui arrive, mais il n'y a plus aucun problème. Vous êtes blessé. Ben vous êtes blessé, quel est le problème? Il faut en plus qu'il y ait un refus pour que ça devienne un problème. Ça ne devrait pas être comme ça. Jugement, c'est mal. Mais s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de refus, ben vous êtes blessé. On en fait pas une histoire si terrible, puis ça passe. Vous êtes triste, c'est pareil. Vous êtes en colère, c'est pareil. S'il n'y a pas de refus, s'il n'y a pas de jugement porté sur ce qui arrive, il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas durer. D'abord parce que c'est pleinement vécu. Puisque c'est pas refusé, c'est pleinement vécu. Il y a de la peur, elle n'est pas refusée, elle est pleinement vécue, vous avez peur pour de vrai. Ben, elle s'effondre toute seule, pourquoi? Parce qu'elle est vécue comme les enfants. Ils tombent, ils se font mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent dans les bras. Ils pleurent un bon coup dans les bras, vous avez encore, vous les serrez, puis mon pauvre petit, eux, ils jouent, se retourner jouer. Ils ont pleuré leur sou, ça suffit. Ils n'en font pas une histoire. Ça se fait mal, ça pleure, ça se fait consoler, ça va retourner. Ça retourne jouer, c'est la nature des choses. Et c'est pareil avec toutes les émotions. Dès qu'elles sont plus bloquées parce qu'elles ne sont pas refusées, pas jugées, elles sont pleinement vécues, plus qu'avant, pas moins, il n'y a pas moins d'émotions, elles sont plus vécues, plus pleinement vécues, complètement, intimement, avec totale implication. Et elles passent en une fraction de seconde souvent. Oui.
Je trouve que je suis assez convaincue sur le plan personnel subjectif, c'est-à-dire que chercher le bien, l'agréable et refuser ce qui est agréable, c'est vrai que ça a pas d'intérêt et que c'est très paisible d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ça, mais je trouve que sur le plan des sociétés, de la planète, je trouve que on ne peut pas dire que c'est sans importance. Tous ces mouvements de guerre, de famine, de maladie, on ne peut pas dire c'est sans importance.
Mais ce que j'ai dit, c'est sans importance.
Mais t'as dit, tu disais, ce qui est douloureux et ce qui est négatif, un jour c'est négatif, après ce que vous dites, c'est sans importance.
C'est je ne l'ai pas dit dans ce sens-là.
Oui, c'est ça que...
Je veux dire, ce que je suis ne peut pas être atteint par ce qui arrive. D'accord ? En ce sens-là, peu importe ce qui m'arrive, ce qui arrive à cet organisme n'a pas d'importance. Et d'une importance toute relative et tout à fait secondaire. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire que je me désintéresse de ce qui se passe autour de moi. Je ne peux pas rester généralement sans réagir quand il se passe quelque chose de pas clair. En particulier avec des enfants, par exemple.
Ça aussi, c'est d'accord. Mais on ne veut pas dire que c'est sans importance au niveau collectif.
Oui et non.
Le processus de guerre et de tout ce qui se passe en soi, on ne peut pas dire ça, c'est sans importance.
À la fois, c'est essentiel. Parce que c'est ce qui se passe. Et qu'il y a de la souffrance, et que ça appelle au regard, et ça appelle la compassion. L'amour ne peut pas ne pas voir ça, et ne pas être ému, et ne pas être touché par tout cela. Et ne peut pas ne pas agir dans certains cas. Et ce n'est qu'un rêve. Ça n'est pas.
En tout cas, on peut porter un jugement là-dessus.
Il y a un jugement qui est porté. Il y a un jugement qui est porté. Je t'invite à regarder le jugement, à être avec le jugement.
Je te dis même, le jugement dans ce moment, c'est que je la trouve borderline, la vie, la conscience, l'être. Voilà, mais je l'accuse. Parce que franchement, si la source de nos actes, si tous nos actes, c'est pas nous le docteur, et que la source. Tous nos actes viennent de la source, nos actes positifs et nos actes négatifs. Finalement, c'est la vie qui se manifeste et qui joue à se manifester dans la compassion et dans l'assassinat. Je la trouve inepte. Voilà. Je trouve ça inepte, ce jeu, si c'est ça le jeu de la vie. Tu vois, il y a un truc là que je doute. Franchement, je la trouve
vis pleinement l'aspect inepte. Reste avec l'aspect inepte. Qu'est-ce que ça crée dans le corps, etc. Je t'invite vraiment à vivre pleinement ce que tu ressens par rapport à ça. Évidemment que c'est inepte. Évidemment que ça n'a aucun sens, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est fou. Le monde est mené par le... D'un point de vue existentiel, l'opinion ici, c'est que le monde est mené par le mental et que c'est la folie. C'est la folie. La folie du mental.
Oui, mais comme le mental,
il
vient de la source.
Ah oui, ça ne veut pas dire que la source est folle. Ça ne veut pas dire que la source est folle. Ça veut dire que la source, elle a pondu un mental fou. Donc si toi, tu es un enfant fou, c'est que tu es folle. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Là, elle a, il n'y a pas d'auteur. Même pas là-haut.
C'est pas nous, c'est la vie, alors on parle de la source.
Mais c'est pas nous, mais il n'y a pas de nous.
Les choses arrivent.
Il n'y a pas d'auteur. Mais il n'y a pas d'auteur dans l'organisme, il n'y en a pas non plus là-haut. Est-ce que l'être T est un auteur de quoi que ce soit? Stop, regarde. Marielle, regarde. Est-ce que l'être T, ceux-là qui. Le je suis. Et auteur de quoi que ce soit.
Non.
Non. Il n'y a pas d'auteur.
Oui, je sens bien que quand je bute là-dessus, c'est parce que j'ai encore mon schéma que j'aime beaucoup. Mon schéma chrétien, mon schéma judéo-chrétien, que Dieu est une personne.
Désolé, dit, ce n'est qu'une croyance. Ce n'est qu'une croyance. Est-elle vraie? Mais
quand
si.
Quand je dénonce cette ineptie, c'est comme si je m'adressais à une personne. Enfin, donc je sens bien que ça colle là, ce côté-là. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, je suis avec cette.
Oui, il y a besoin de regarder tout ça. Déjà, Dieu est une personne, ça croit encore ça, enfin Dieu. Il y a encore l'idée d'un auteur quelque part. Regarde ça et regarde l'ineptie. Je t'invite vraiment à rester avec l'ineptie. C'est inepte. Tu vois, et à rester avec ça, écouter pleinement, c'est inepte. Mais t'es là cette semaine, je crois. Oh, on aura le temps. Tu peux commencer ce soir.
Et la responsabilité
de qui? Ben, je ne sais pas non plus. Puisqu'il n'y a pas de moi. Puisqu'il n'y a pas de moi, je ne peux pas être responsable. Et revenez à cela qui ne peut pas ne pas être. Ne peut pas ne pas être. Revenez à l'étroité. Est-ce que l'idée de ne pas prendre soin de quelqu'un dans le besoin peut apparaître? Il faut juste être malade du mental. C'est-à-dire que ce que je suis est la responsabilité même. Ce que je suis est amour, est compassion. Il ne fera jamais de mal sciemment à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. C'est à soi-même que ça ferait du mal. Quand il n'y a plus de division, quand on se vit l'unité étant comme unique et non divisé avec quoi que ce soit, comment faire mal? Ça n'a pas de sens. C'est juste pas possible. Alors il n'y a plus besoin du concept de responsabilité. Ça agit de façon responsable, de fait, sans concept. C'est pas un blanc-seing pour faire tout et n'importe quoi. Quoi? Au contraire, il y a une éthique de fond, mais. Je me suis vu parfois réaligner des trucs, mais avec une puissance que je ne connaissais pas avant. Faire des choses que jamais j'aurais même osé faire, ou même osé penser faire. Et ça sort, faf! Qu'est-ce que j'ai dit là? Bloops, ah ben c'est fait. Et il n'y a aucune idée de j'aurais pas dû ou de oh là là. Il y a un petit moment, ça surprend parce que je ne me connais pas comme ça. Je ne me connaissais pas, ça, je commence à prendre l'habitude. Avant, j'enrobais les choses, j'essayais de dire gentiment, vous voyez, de faire comprendre. Et parfois, oui, je fais encore ça, et parfois, non. Ça sort, boum. Jamais méchamment. Il y a encore des pulsions, parfois, être un peu piqué. Mais c'est vu.
On n'a pas tous la même.
Voilà, quel autre est-ce qu'il pourrait bien y avoir? Bon, vu d'ici, ouais. Je suis désolé. Il n'y a qu'un rêveur la nuit quand vous rêvez, même quand il y a 50 personnages.
Autant de personnes est ici ce soir.
Non,
il n'y en
a qu'une. Par contre, il
n'y
a pas d'histoire.
Ouais. Par contre, il y a plein d'histoires.
Si tout le monde était éveillé, on dirait quoi?
Pardon?
Si tout le monde était éveillé, on dirait quoi?
On dirait quoi?
Mais on dirait qu'il n'y a pas d'histoire quand même.
Mais l'histoire Marion Gérard, elle continue à se jouer.
Ah ouais.
On jouerait des jeux plus amusants. C'est plus amusant de s'aimer que de s'en ficher sur la figure et je pense qu'on le réaliserait. C'est la folie du mental qui va s'arrêter. C'est la folie du mental qui s'arrête. Ça, c'est intéressant d'en parler avec ceux qui ont réalisé qu'il n'y avait pas de moi. Il y en a... moi, ça a été très calme après, mais 20 ans de thérapie avant, ça aide. Et il y en a, ça chamboule fort. Il y a plein de choses qui s'effondrent, ne s'arrêtent pas. pendant des mois, il y a un nettoyage qui se fait, quoi. Il y a plein de conditionnements qui tombent, de croyances, de comportements. Ça s'effondre.
Justement. Par contre, le comportement me vient à l'esprit, la spontanéité.
Oui.
Un enfant est spontané.
Oui. Qu'est-ce que vous pensez de moi, là, tout de suite? Là, tout de suite, vous me trouvez assez spontané ou pas trop? Depuis que je parle, vous me trouvez plutôt spontané?
Non, mais...
Il y a un côté comme ça, ouais.
Non, mais je ne parle pas de moi, mais en général, la spontanéité dans ces sociétés, on fait tout pour qu'elle n'existe pas.
Ça, c'est une croyance, une pensée, c'est pas la mienne. Oui. Oui.
Alors que du coup, s'ils laissent cette spontanéité à l'air libre, s'ils la laissent s'exprimer, ils seraient plus dans l'être-té.
Non, ça marche pas dans ce sens-là.
C'est pour ça que j'aimerais.
Pour moi, c'est, ne cherchez pas la spontanéité pour trouver l'être-té. Trouvez l'être-té, et la spontanéité s'exprimera avec beaucoup plus de justesse. Parce que je continue à mettre un maillot de bain sur la plage. Spontanément, j'en mettrai pas. Mais c'est vrai, parce qu'on était sur la plage cet après-midi en plus avec Marion, mais... Moi, j'ai réalisé ça. C'était l'année dernière. J'étais à la plage. Et je me suis dit, mais moi, j'adore être tout nu sur la plage et dans l'eau. Hein. Vraiment, j'adore ça. Mais depuis longtemps. Et je me suis dit, pourquoi tu gardes un maillot de bain, en fait? Et en fait, j'ai réalisé que le regard critique des gens serait plus pénible à supporter que le maillot de bain. Parce que je le sens, même si j'ai les yeux fermés et que je suis allongé sur ma serviette, on sent les gens. Hein. Et finalement, il vaut mieux garder le maillot de bain si... C'est plus confortable.
Oui, il y a des lieux pour ça.
Oui, non, mais ça, c'est une autre histoire. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une spontanéité, mais qu'elle n'est pas complètement spontanée. Parce qu'elle va s'adapter en fonction de ce qui se passe. Des autres, de tout ce qui se passe. C'est pas... Oui, c'est jamais un bon sens, de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours opportun d'être spontané.
Il y a parfois, il me semble qu'il y a quelque chose qui peut être... C'est la spontanéité... Et l'impulsivité, c'est pas du tout la même chose.
Oui, enfin spontanément, je me mettrais tout nu pour aller baigner en mer et il ne viendrait pas l'idée de mettre un maillot, quoi.
Parce que des fois on dit qu'il y a des gens qui sont spontanés, c'est juste qu'ils sont très épidermiques, très impulsifs.
Oui, ça c'est autre chose. Moi, toujours mon premier bain de mer, il faudrait le voir, hein. Je suis pire qu'un gosse. En début de saison.
Et du coup, quand vous dites que l'un des autres vous gêne...
Non, c'est pas le regard critique. Je vais sentir la critique.
Mais qu'est-ce que ça...
Ça a une puissance énergétique, on la sent.
Ça crée un mal-être.
C'est... Oui, ça crée un mal-être énergétique, corporel, donc corporel. Ne croyez pas qu'on soit plus insensible, on est beaucoup plus sensible à beaucoup plus de choses. Ne croyez pas que nous sommes des individus séparés, que nous avons un corps séparé du reste. C'est faux. Nous pouvons très bien sentir, et regardez quand quelqu'un se fait mal. Hein? Vous savez très bien l'effet que ça fait dans votre corps. C'est l'autre qui a mal, mais vous le sentez dans votre corps. Et là, c'est facile, ça t'arrive à tout le monde. Mais en fait, en réalité, c'est tout le temps comme ça. En réalité, quand les œillères tombent, on se met à sentir plein de choses de partout.
Est-ce que ça peut arriver de chercher à fuir cette sensibilité?
Alors, moi, pas, non. Ça peut... Il y a longtemps, c'est ce qui va bien aussi en thérapie, c'est je la trouvais douloureuse et je n'arrivais pas à la gérer et je ne comprenais rien en fait, hein, ce qui se passait tout simplement. Et je me critiquais parce qu'en plus ça m'empêchait de fonctionner correctement et patati patata. Je suis devenu psy, du coup maintenant j'ai compris que ça pouvait être un outil. Et du coup forcément ça aide. Mais si on refuse sa sensibilité, c'est qu'on n'a pas intégré sa beauté, sa fonctionnalité. C'est qu'on ne sait pas gérer. Et c'est vrai que j'ai dû apprendre à le gérer. Mais aussi, le monde dans lequel on vit, j'ai fait tout pour qu'on n'arrive pas à le gérer, pour qu'on n'apprenne pas à le gérer. Alors, si quand j'avais été petit, on m'avait dit « Mais tu es sensible, et tu sais, c'est normal, et on va t'apprendre à le gérer, et puis regarde comme ça, fais ci, fais toi. » Moi, je me croyais fou. Parce que je sentais des choses que les autres ne sentaient pas, et en plus, ils me disaient « C'est pas vrai. » Sauf que je me suis rendu compte 10 ans plus tard que si, j'avais raison, c'était bien comme ça. Par exemple,
tu vois. Du coup, est-ce que c'est pas un schéma répétitif que tu faisais ?
Pardon ?
Est-ce que c'est pas un schéma répétitif ? Même de le savoir, de le refuser ?
Ben, ça peut, oui.
Parce que c'est un schéma bien ancré qui colle.
Oui, comme tout le reste. Mais ni plus ni moins que tout le reste. C'est-à-dire, l'enfant petit ne peut pas gérer. Il n'a pas le modèle pour gérer. Et si on ne lui apprend pas à le faire, il va le refouler. Il va en plus se critiquer, penser qu'il n'est pas normal, qu'il est moins bien que les autres, etc., etc. Ce qui va bien sûr ajouter une couche. Mais ça, c'est l'enfant. Et bien sûr, après, ça tourne tout seul. Mais à l'âge adulte, on a les moyens d'apprendre à le gérer, de le gérer. Et sinon, simplement être avec la sensibilité exacerbée, ou prétendument exacerbée, ou en tout cas forte, être avec, et rien faire d'autre que d'être avec. Être avec, sentir, se laisser être une éponge à sensation. Et regarder, ne pas coller à la sensation, mais regarder, waouh, ça sent de tous les sens, dans tous les côtés, plein de trucs, tout le temps, et qu'est-ce que ça fait? Oh, mais ça m'épuise, oh là là, et je sens l'épuisement. Et je continue, et je continue, et je continue. Ça va se calmer. Ou s'intégrer, ça va s'intégrer. Dans ce cas précis, je pense plutôt que ça va s'intégrer. Et à un moment donné, ça va être vu. Bam! Ah, mais attends, mais cette sensibilité, mais quel cadeau! Tant que c'est pas intégré, c'est un fléau. Tout à fait d'accord. Moi, ça a été un fléau pendant plus de 30 ans. Je sais pas combien, mais largement plus de 30.
Est-ce qu'il y a
ne retiens pas, laisse couler. N'essaie pas de rattraper quoi que ce soit, de te récupérer d'une manière ou d'une autre. Laisse-toi t'effondrer. Être défait, tu vois. Impuissant. Totalement impuissant. Sans défense. toi, c'est... Laisse-toi être avec... Ah oui, tiens. Cet organisme, il est complètement touché. Cet organisme, il est complètement balayé par les sensations. J'ose pas dire accepte, mais l'idée c'est ça, c'est vraiment accepte que ce soit comme ça, tu vois, que cet organisme soit comme ça. C'est pas un faire quand je dis accepte, c'est pas il faut que j'accepte, c'est à un moment donné, si tu veux, il y a juste un oui. Et s'il n'y a pas de oui, c'est pas grave. Restez avec le non. Et alors ressentir le non. Et en fait, ça n'a pas de problème. C'est pas un problème. Pardon ? C'est un gros paquet tant que je le retiens. Quand je le laisse s'effondrer, c'était juste un ballon de baudruche. C'est juste ça, tu vois. Et c'est juste être avec, être avec, être avec. Ne rien en faire, simplement être avec. Et c'est petit à petit que tu vas savoir faire le tri dans tout ça et que ça va devenir. Ça va augmenter la qualité de présence pour nous. Qui avait commencé une phrase ? Qu'est-ce qui avait commencé quelque chose ? C'est toi, je crois.
C'est au sujet de la liberté.
Ouais.
Est-ce que. Quand une couche de soi s'engonfle, qui est du mental, téléphoné, conditionné ou autre, quand vous êtes allé vers cette être-té, Est-ce que vous avez ressenti une liberté ?
Je suis la liberté même, pourrait-on dire. Une libération. Comme je disais tout à l'heure, c'est les grandes vacances à perpétuité. Condamné aux grandes vacances à perpétuité. Oui, c'est oui, en ce sens-là, il y a, oui, il y a une liberté, il y a une aisance. Il y a une liberté par rapport à plein de conditionnements. Il y a une liberté d'être, une liberté de... Il y a un poids qui s'est enlevé, évidemment. Et il y a une aisance dans les relations, dans la façon d'être, d'agir, de dire. Je suis déjà assez à l'aise, mais... Quand vous rêvez la nuit, il y a 50 personnes qui ont votre rêve, elles ne vivent pas toutes la même chose. Votre erreur, c'est de croire que vous êtes différent de moi. Nous sommes un. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Vous, vous avez des œillères qui vous font croire que vous êtes vous. Moi, les œillères sont tombées et je sais que je suis tout le monde. Que je suis tout et rien à la fois. Et que c'est la même chose. C'est la seule différence. Vous, vous croyez qu'il y a moi, un pilote. Moi, ça s'est effondré. La différence entre vous et moi, c'est la croyance en un pilote. la différence fondamentale. C'est ça. C'est juste la perte d'une croyance. La différence. Elle est infime. Mais le changement est radical.
Une question qui me vient. Vous aimez une personne, cette personne vous aime. C'est vous qu'elle aime.
Les organismes. Deux organismes en mouvement qui se rencontrent. Mais n'allez pas croire que j'aime que Marion. J'aime tout le monde. Si vous venez au séminaire, vous allez voir, j'ai juste appelé ma chérie et moi une vingtaine de femmes. Et c'est de tout mon cœur. Mais dans mon lit avec Marion. La relation est quand même très spécifique.
Donc, il y a un soi, puisqu'il y a quand même deux inférences de deux personnes.
Il y a des organismes.
Des organismes, c'est quoi ?
Il y a un organisme, corps mental, enfin, ça fonctionne, quoi. Avec des conditionnements, avec des attirances, des préférences, des phéromones, et patati patata. Des histoires personnelles, des...
D'organismes.
D'organismes, oui. Des organismes. Mais l'amour est là. L'amour est tout le temps là. Je suis l'amour. Vous êtes l'amour. Vous ne pouvez pas ne pas être l'amour pur, inconditionnel, total. Vous ne pouvez pas ne pas l'être.
Comment vous savez ça ?
C'est une évidence. Quand vous savez qu'il y a une cheminée dans la pièce, vous ouvrez les yeux, vous regardez, vous la voyez.
Comment ça, je la vois ?
La cheminée.
Ah, la cheminée.
Je vous rassure, j'avais peur tout d'un coup. Il y a une cheminée dans la pièce. Comment vous savez qu'il y a une cheminée dans la pièce ?
Oui, je la vois.
Eh ben voilà, c'est pareil. Pour moi, c'est une évidence.
C'est pareil.
C'est pareil. Je parle de regard. Bien sûr, c'est pas un regard juste physique. C'est un regard porté sur une croyance. La croyance en un individu séparé, la croyance en un pilote, en un auteur. Est-ce qu'il y en a un, oui ou non ? Et donc, et le retour automatique, lorsque ces croyances s'effondrent, à l'être-té que je suis, et qui est amour, et qui est joie, et qui est bonheur, et qui est paix, et qui est tout ce que vous avez déjà rêvé, que vous en ayez conscience ou non. Vous êtes ce que vous cherchez. Vous ne pouvez pas ne pas l'être. C'est pas la peine de chercher. Vous l'êtes déjà. Vous avez les lunettes sur votre nez, vous dites, où sont mes lunettes ? Vous êtes dans l'eau et vous cherchez l'eau. Ça n'a pas de sens. Et pendant que vous cherchez, vous ne pouvez pas réaliser que vous êtes déjà dans l'eau. Parce que vous cherchez. Frénétiquement, vous êtes comme un poisson dans l'eau, là. Qui bat de la queue pour aller le plus vite possible pour trouver l'eau. Vite, vite, sinon je vais mourir étouffé par manque d'eau. Ça n'a pas de sens. Stop. Respire. Enfin, avale l'eau, tu verras que tu es dans l'eau. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. Stop. Regarde. Il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu.
Et donc les désirs de vouloir voyager, de vouloir, quand on sent que les barrières sont tombées, que le soi n'existe pas, on a bien ressenti l'être-té, et qu'on ressent tout ce qui est autour.
C'est pas comme ça. N'en faites pas un truc extraordinaire.
Non, mais est-ce que le désir, par exemple, moi, j'aimerais... plus voyager, j'aimerais découvrir plus de choses, j'aimerais, quand je me pose, est-ce que c'est pas des croyances, ou est-ce que c'est un...
Ça dépendra des organismes. Ça dépendra des organismes. C'est pas l'être, c'est l'organisme. Il y a certains organismes qui sont conditionnés à devenir boulanger, d'autres médecins, d'autres profs, d'autres, etc. Heureusement, ils ne sont pas tous conditionnés à être boulanger.
n'y aurait pas de paysans pour cultiver le blé. Et on n'aurait pas de quoi faire de la boulangerie. Vous voyez ce que je veux dire? Et chaque organisme, la nature organique, cet organisme conditionné et fondé sur ses gènes, les deux, font que bah, tel organisme va voyager, et puis tel autre, il va rester plutôt sur la plage à dorer, et puis tel autre, il va faire autre chose. Ils vont faire de l'art, il y en a qui vont faire...
Il n'y a pas de choix, il y a juste à vivre l'instant qui va peut-être nous amener là, ou peut-être nous amener ici.
Même ça, c'est trop.
Si le désir émerge...
Même ça, c'est trop.
Finalement, si le désir émerge de voyager, et que les choses sont mises en place pour le faire, ça se fait aussi.
Voilà, et puis si ça ne se fait pas, ça n'enlève rien à ce que je suis, donc de toute façon, ce n'est pas grave.
Oui, pourquoi non plus attendre que ça tombe du ciel, que ça va se tracer tout seul, non, mais quelque part...
Mais je suis sûr que si ça tombe du ciel... Ou pas. On s'en fout.
On s'en fout.
La différence, c'est qu'en fait... étant le bonheur, que les événements soient ce que je crois que j'attends, mais j'attends plus rien, pas ce que je croyais attendre, enfin avoir besoin, je sais pas quoi, il n'y a plus de besoin. Enfin, je veux dire, ça perd son sens tout ça. Pour moi, ça a perdu son sens tout ça.
Il n'y a plus de réel désir, quoi.
Quasiment plus. Beaucoup moins. Et d'aversion aussi, de refus. Beaucoup moins.
Ah oui.
Beaucoup moins. Mais n'allez pas croire. J'ai vu la main qui se levait, mais bon. N'allez pas croire que c'est une fin. L'éveil, c'est pas une fin, c'est un commencement. N'allez pas croire que parce que ça y est, on a réalisé qu'il n'y avait pas de moi, tout le reste s'est effondré. Souvenez-vous ce que je dis tout à l'heure. La pensée moi, et les autres pensées, tristesse, colère, et toutes les histoires qu'on peut se raconter sont associées. La pensée moi s'effondre, j'ai pas dit les autres s'effondrent. Les autres, il y en a une partie qui s'effondre avant, il y en a qui s'effondre au moment de l'éveil, il y en a qui s'effondre après. Écoutez ce que je dis tout à l'heure. Il y en a beaucoup, après l'éveil, ça remue beaucoup, pendant des mois. Il y a un nettoyage qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres pensées crues qui demeurent, et qui, à force, qui sont appelées à être vues ou pas, et quand elles sont vues, elles s'effondrent. Mais si elles ne sont pas vues, elles continuent. Et n'allez pas croire non plus que c'est tout le temps vivre l'être-té, je suis, je vis que je suis le bonheur, et je vis que je suis l'amour. Non. Arrêtez, c'est juste des idées. C'est juste naturel, normal. On n'est pas tout le temps en train de penser, je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. On n'est pas tout le temps, bah, arrête de penser. C'est pas mieux. Ça te passera mieux. Et j'ai pas besoin de faire quelque chose pour que la nature masculine s'exprime de fait. J'ai pas besoin même de savoir que je suis un homme pour que la nature masculine s'exprime de fait. Les garçons jouent généralement à la guerre. Dans toutes les civilisations. Et même quand les mamans ne veulent pas qu'ils aient des armes et tout, hein, ils ne se battent pas, ils vont quand même se battre, ils vont quand même jouer à la guerre. Parce que l'homme, dans les gènes, est programmé pour défendre la tribu, les femmes et les enfants. Et si vous avez un doute, imaginez un instant. Chut, alors c'est moi qui parle. Je m'entends plus parler. Imaginez un instant. C'est important. Moi j'essaie, vous disiez mon savoir à moi. Ne l'écoutez pas. Pardon ? Vous voulez que je vous le raconte quand même ?
Oui !
Vous êtes sûr ? Imaginez un instant, monsieur, madame, leurs deux enfants, la famille modèle, se promènent en forêt. Il y a un grand monsieur avec un grand couteau qui vient, qui vous dit sans réfléchir. Qu'est-ce que fait madame ? Qu'est-ce que fait monsieur ? Sans réfléchir ! Sans réfléchir, qu'est-ce que fait madame? Qu'est-ce que fait monsieur?
Monsieur protège madame, madame se protège.
Non. Protège les enfants! Les enfants!
Les enfants! qu'est-ce qu'on attend de lui, sans réfléchir?
Il
s'érige face au danger. Question subsidiaire pour départager les ex-échos. Qui s'érige et qui enveloppe? Par exemple, lors des rapports sexuels. Désolé, c'est génétique. C'est génétique. Tiens, j'ai posé la question à des gens de différents pays, de différentes origines, de différentes cultures. Tout le monde peut répondre à la même chose. Ça veut dire que lorsqu'on demande aux femmes de se comporter comme des hommes, au boulot par exemple, et aux hommes d'arrêter de se battre, c'est juste la folie du mental. Parce que ça ne correspond plus à nos gènes. Mais vous n'avez pas besoin d'être conscient d'être un homme pour que ça se passe. Et vous n'avez pas besoin d'être conscient d'être l'être-té, l'amour et le bonheur pour l'être. Vous l'êtes de fait. Et de fait, quand il y a besoin, ça va s'exprimer, ça ne peut pas ne pas. Mais ce n'est vu que quand ça a besoin de s'exprimer en tant que. Le reste du temps, c'est oublié. On n'y pense pas. Tout simplement. Oui.
Bien sûr. Merci. Je vais vous poser la question suivante. Les moines qui sont enfermés dans les monastères, c'est des êtres éveillés,
Ce sont le plus souvent ceux qui sont vraiment enfermés dans les monastères. Le plus souvent, ce sont des gens qui ont un côté ermite et qui adorent être seuls. Tout simplement.
Il peut y avoir des éveillés,
il y en a plus d'un qui s'est déjà éveillé comme ça, bien sûr, oui. Bien sûr. Attention les yeux. Non, ça marche pas. Oh.
Que la lumière soit là.
Quand vous écoutant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de méthode.
Merci. Exact.
Donc à vous écouter, c'est reposant parce qu'il y a pas de
rien. D'un côté, tout à fait, exact. Toute stratégie mise en place pour obtenir quelque chose, à un moment donné ou à un autre, elle va échouer parce que elles sont toutes fondées sur l'idée d'un moi qui peut obtenir quelque chose par ses propres efforts. Or, il n'y a pas de moi.
Donc à l'école, on nous apprend les méthodes, les règles et tout.
Pour tout ce qui concerne le fonctionnement dans le monde, c'est le fonctionnement dans le monde.
C'est le mental.
Oui. On apprend un jeune à conduire, c'est le mental, c'est le côté fonctionnel.
Vous voyez, si je retournais à l'école, je pense que ce serait plus la même, vous
voyez. Oui, moi non plus. D'ailleurs, je ne répondrai pas. Par contre, je ne dis pas ne faites rien.
Pardon ?
Je ne dis pas ne faites rien. Parce que ne rien faire serait une stratégie. Mais j'ai compris, ça sert à rien de faire d'appliquer des trucs, donc maintenant je fais plus rien. C'est encore une stratégie. Et c'est ce
encore une pensée
délicat, ce piège délicat, ce paradoxe délicat, tout est là. Tout est là. Le regard qui n'est pas une stratégie. Vous êtes le regard. L'être-té est regard. Ravivez ER, le regard. Regardez ER. Et que ce ne soit pas une stratégie. Que ce soit un être avec. Que ce ne soit pas dans le but de changer quelque chose, mais plutôt par curiosité ou par amour de la vérité. Comme un gosse regarde des fourmis pour la première fois. Il faut que je change d'exemple, je prends toujours le même. Bon, la classe est bien dissipée là. Allez, récréation. Bonne soirée, merci.